On va aller joindre Lydiane Saint-Onge qui fait le tour du monde pour nous, mais le tour du monde au Québec cette année. Bonjour Lydiane.
Bonjour Louis.
C'est un tour du monde très local, c'est ça qui est le fun.
Bon. Très local et pas moins déplaisant.
Non, c'est parce qu'au Québec, il y a des super beaux endroits. On le mentionnait l'autre fois, souvent on a tendance à vouloir aller voir ailleurs parce que c'est toujours plus beau ailleurs. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais on a des beaux coins au Québec et tu nous le fais découvrir justement de belles façons cet été. Et là, tu veux nous faire redécouvrir le camping. Et surtout, qu'est-ce que ça prend, justement, pour faire du camping et être, apprécier l'expérience au maximum?
Oui, et ça peut devenir mêlant de magasiner son équipement de camping ou de simplement s'équiper, demander aux gens autour de nous, bon, qu'est-ce qu'on devrait prendre comme sac de couchage, comme tente? Et moi, je reçois énormément de questions, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite chronique pour vous éclairer un peu à ce sujet-là.
Ben, éclaire-nous.
Au niveau de la tente,
oui.
On a trois aspects à vérifier quand on choisit une tente, quand on magasine une tente. Premièrement, au niveau du poids et du volume, il faut se poser la question, est-ce que cette tente-là, on va la prendre pour aller faire des longues randonnées? Est-ce qu'on va aller dormir au sommet d'une montagne ou on va tout simplement pouvoir stationner notre voiture à côté, puis on va être dans un camping accessible?
Donc, dans ce cas-là, tu peux avoir une tente qui est un peu plus lourde, ça a moins d'impact.
Ouais. Plus lourde, elle va être plus résistante, mais aussi souvent moins chère. Donc, si on est sûr et certain de toujours camper dans un camping, bien, à ce moment-là, on ne se pose pas de questions, puis on va vers ce genre de modèle-là. Il faut aussi penser au niveau de la température. Est-ce qu'on va camper juste l'été, l'automne et le printemps, où on va considérer même l'hiver, parce que c'est des tentes qui sont faites complètement différemment. Mm-hmm. On parle d'une tente qui est faite pour l'été ou les trois saisons. Elle va avoir beaucoup de panneaux d'aération. Elle va souvent avoir même posséder un double toit. Pour ce qui est des tentes d'hiver, bien, à ce moment-là, on a des tentes qui sont hyper robustes, résistantes, et il n'y a pratiquement pas de panneaux d'aération. Donc, je vous conseille pas d'aller camper avec une tente d'hiver en plein été. Vous allez avoir très chaud, je peux vous dire.
Oui, c'est ça. Puis ça va être très humide à l'intérieur. Ça va être très
difficile
un peu. Oui, c'est ça.
Après ça, il faut se poser... Oui, c'est ça, la capacité.
La capacité, oui.
Le nombre de personnes. On a souvent tendance à se fier à ce que la compagnie dit comme nombre de personnes. Par exemple, on se magasine une tente pour deux personnes et on a le réflexe d'aller vers une tente pour deux personnes. Je vous le conseille pas parce qu'en fait, comment les compagnies calculent leurs choses, c'est qu'ils vont dire il peut rentrer deux personnes, deux sacs de couchage, un à côté de l'autre.
Ouais. Sauf que là, t'as plus de place pour rien d'autre, là. Tu peux plus mettre tes vêtements ou, donc généralement, une tente pour trois, c'est pour deux, hein?
Exactement. Moi, je rajoute tout le temps une personne et même j'irais jusqu'à y aller pour deux personnes de plus. Donc, bon, j'aime un peu l'espace, j'aime un petit peu plus le luxe. Et je me suis procuré une tente pour quatre personnes juste parce que ça nous laisse la place de laisser un sac à dos à l'intérieur et de se laisser même un espace entre nos matelas, tout simplement. J'aime beaucoup la compagnie MSR qui font des super tentes d'été. Donc, si jamais vous regardez cette compagnie-là, ils sont très bien. Bon. Je les ai testés partout autour du monde.
OK. Là, le prochain item est vraiment, mais vraiment très important. Moi, j'ai des problèmes de dos. Si je couche et par terre, par exemple, je vais avoir mal au dos. C'est sûr, le lendemain, j'ai de la misère à me relever. Alors, le matelas de sol est vraiment hyper important. Hein?
Et c'est possible de bien dormir. Il faut simplement investir dans un bon matelas de sol.
C'est ça, exact.
Et j'en ai fait là, des matelas de sol. Ouais. J'en ai percé, j'en ai réessayé d'autres. Et je pense que j'ai trouvé ce qui convenait le mieux, qui était généralement le plus confortable pour tout le monde.
Okay.
On a des matelas de sol qui sont, autogonflables. On a des matelas, des petits tapis de sol, des matelas gonflables qu'on souffle par nous-mêmes. Bref, moi, je vous conseille le matelas qui se gonfle par nous-mêmes. Donc, souvent, ça vient avec une espèce de sac auquel on peut prendre des grandes bouffées d'air sans que ça vienne de notre bouche. Et on remplit cet air-là directement dans notre sac de couchage. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser notre bouche, notre souffle, et ça se gonfle beaucoup plus rapidement. Un matelas gonflable, c'est pourquoi l'avantage? Ça nous isole du froid du sol.
Oui, parce qu'il y a une couche d'air entre les deux, là, oui.
Ben oui, des fois, il y a un petit frigidaire,
Oui.
Et des fois, ben c'est que des roches, le terrain n'est pas toujours égal. Donc, le matelas gonflable va un peu absorber ces petites roches-là ou ces inégalités-là. Et souvent même, il y a des matelas gonflables avec isolation. Mm-hmm. Et moi, c'est ce que je préfère le plus parce que même en été, on a de l'humidité, on a du froid. Donc, de pouvoir dormir sur un, matelas qui est confortable et qui peut apporter la chaleur, c'est l'idéal.
Ouais. Et ne lésinez pas. S'il y a un endroit où vous devriez pas, en tout cas, à mon sens, à moi, là, vous devriez pas économiser, si on veut, là, c'est sur le matelas de sol. Parce que,
je suis tout à fait d'accord.
Si tu te lèves le lendemain matin, puis t'es raqué, puis t'es tout croche, c'est pas le fun. Puis
t'as pas passé
pas ta journée. C'est ça, exactement.
Bon, exact. On peut compter 250 $ pour un très bon matelas de sol.
Ouais, ça peut être chiffreux, comme on dit.
Bon. Oui, c'est ça.
Le sac de couchage, aussi, autre élément important?
On a deux types de sacs de couchage.
Ouais.
Un en duvet et l'autre en synthétique. Des avantages et des inconvénients pour chacun.
Mm-hmm.
Au niveau du duvet, c'est que c'est plus léger, c'est plus compressible. Ça apporte une superbe chaleur. Il y a une chaleur qui est différente entre le duvet et le synthétique, je vous dirais.
Ouais.
Puis le duvet, moi, c'est ma préférence. Par contre, dès que c'est mouillé,
ouais,
si on l'échappe dans l'eau, s'il mouille dessus ou quoi que ce soit, il perd toute son efficacité au niveau de la chaleur.
Oui, puis c'est long à sécher. Ouais.
Et c'est très long à sécher.
Ouais.
Et pour ce qui est du synthétique, c'est beaucoup plus durable. Et si c'est mouillé, ça va quand même garder sa chaleur. Et c'est beaucoup moins cher aussi. Donc, il y a quand même bien des avantages au synthétique, mais c'est mm-hmm. pas compressible et c'est lourd.
Oui. Et ça peut être cher aussi, des sacs de couchage. Là. Mais là, il y a un paquet de... Parce que là, tu peux acheter des sacs de couchage moins 5, plus 5, moins 10, moins 20. On fait quoi, là? C'est quoi? On s'y retrouve comment pour l'été? On n'a pas besoin de sacs très, très volumineux. Est-ce qu'on doit avoir un sac pour l'été et un pour l'hiver?
Et là, c'est là que c'est dommage, mais oui, je veux dire,
ouais,
il y a une immense différence entre une température d'hiver et une température d'été. Pour l'été, on peut frôler les 0 degrés ou moins 5 à 0 degrés au niveau de l'indice du sac mm-hmm. de couchage. Qu'est-ce que ça veut dire, l'indice? C'est que la personne va rester, elle va avoir une certaine chaleur jusqu'à, par exemple, 0 degrés ou moins 5.
Ouais.
Donc, idéalement, on essaye de prendre une température qui est tout le temps plus froide au niveau de l'indice, afin de se garder au chaud,
ouais,
jusqu'à une température X, Y, Z. Donc, si une nuit, il fait 0 degré, on essaye d'aller chercher un sac de couchage qui peut ouais. aller jusqu'à moins 5 degrés, bon, au minimum.
Qu'est-ce qu'on apporte? Les choses les plus importantes à ne pas oublier?
Lampe frontale,
oui,
un must.
Oui.
C'est vraiment bien important. Moi, j'ai adoré la tente moustiquaire qui nous permet de se protéger de la pluie et aussi des moustiques.
Mm-hmm.
Quand on est en tente, on veut pas cuisiner dans notre tente, c'est pas possible et c'est plutôt dangereux.
Ouais.
Donc, d'avoir un espace qui nous permet d'être agréablement assis dehors, sans se faire attaquer par les moustiques ou la pluie.
Et aérer quand on utilise le gaz, entre autres choses. Ouais.
Aussi.
Ouais.
Donc, nous, on l'a beaucoup utilisé en canot camping. Je trouve que c'est un must
mm-hmm.
à avoir. Bien sûr, des chaises de camping rétractables et qui sont compactes. Bien s'asseoir, ça fait du bien, pas toujours s'asseoir par terre. Là.
Ouais.
Donc, c'est agréable. Oreiller gonflable. On a des casseroles, gamelles. On a le réchaud qui est combustible. Il y en a de toutes les sortes. Mon préféré, c'est celui qui se fonctionne au gaz propane et qui est minimaliste, qui s'apporte très facilement.
Ouais.
Et petit bac à vaisselle rétractable, toujours utile.
Puis les sacs de poubelle, c'est très, très, très important aussi de ne pas laisser
oui.
de traces derrière vous quand vous quittez. Là, pour pas,
c'est hyper important.
Ouais.
Je pense que la chose à retenir quand on s'en va en camping, on ne laisse aucune trace, on rapporte.
Ouais.
Tous nos déchets et même le papier de toilette.
Ouais.
Je sais que c'est pas si agréable, mais il faut le ramener. Si on est 100 000 personnes à faire la même chose, imaginez qu'est-ce que ça va avoir là, notre nature.
Exactement. Alors, sur ces conseils judicieux, ben bon camping.
Ben bon camping.
T'es à l'extérieur, j'entends un avion qui passe, là.
Ben oui. Je suis revenue à Québec, au moins.
Ah bon,
je
d'accord.
Je ne suis plus en Abitibi.
Salut, Lydiane. Merci beaucoup. À demain.
Salut.
Bye.